le Climate Action Accelerator donne la parole aux acteurs du changement au sein des organisations. L'objectif est de montrer que la transition vers le net zéro carbone est possible, de partager les solutions concrètes et réalisables, de faire témoigner les personnalités influentes pour favoriser la prise de conscience. Nous avons souhaité donner la parole à Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge et au conseil d'administration du Climate Action Accelerator. Il nous explique les engagements pris par le CICR pour lutter contre le réchauffement climatique, quelles sont les forces nécessaires pour réussir sa transformation vers la décarbonation et comment le Climate Action Accelerator peut contribuer au basculement. Bonne écoute. Bonjour.
Bien bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Voilà, je suis Gilles Carbonnier, le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle prise de conscience est à l'origine de l'élaboration de la Charte pour le climat et l'environnement ?
On a trouvé très important d'élaborer avec la Fédération internationale des sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge cette charte pour le climat et l'environnement. Il y avait quatre constats de base. Le premier, c'est qu'on le voit tous les jours sur le terrain. C'est vraiment les communautés, les personnes qui ont le moins contribué au réchauffement climatique, qui sont le plus directement et durement frappées par les incidences du changement climatique. On a vu aussi, alors au niveau académique, que parmi les 25 pays qui sont les plus directement impactés par le changement climatique, on a 14 de ces 25 pays qui sont des pays dans lesquels on a des conflits de longue durée. Et les personnes qui sont déjà mises sous énorme pression en raison de conflits qui ont duré souvent même plus d'une décennie font face en même temps au changement climatique. Le deuxième constat, c'est que, au fond, dans ces pays, les organisations humanitaires, nous autres, on a un rôle important à jouer. Et puis, qu'on était peu équipés en termes de politique d'intervention et qu'il faut faire un effort dans ce domaine. Le troisième constat, c'était qu'il faut qu'on fasse partie de la solution et pas du problème. Et pour faire partie de la solution, il faut d'une part qu'on aide les populations qui sont impactées, qu'on les soutienne leurs efforts d'adaptation à la réalité du changement climatique, et n'ont pas le choix. Mais d'autre part, il faut aussi qu'on réduise notre propre empreinte, nos émissions, pour que l'on contribue aussi à être plutôt partie de la solution que du problème. Et puis finalement, alors, on en est convaincu, aucune organisation seule peut y arriver. On a besoin de travailler déjà au niveau du secteur humanitaire ensemble, puis au-delà. Donc on a élaboré cette charte de manière très très participative avec des experts du changement climatique, avec des experts de nombreuses problématiques environnementales. Et puis aujourd'hui, on a plus de 220 signataires, bien sûr essentiellement des organisations humanitaires, mais aussi des États, des donateurs et puis des agences des Nations Unies. Donc c'est vraiment un effort conjoint pour qu'on travaille surtout à ces efforts de soutenir l'adaptation au changement climatique et réduire notre empreinte.
Quel engagement, du coup, est-ce que vous avez pris concrètement et en quoi votre partenariat avec le Climate Action Accelerator peut vous aider justement à accélérer ce passage à l'action ?
Bon, on a pris trois engagements qui vont être vraiment des vrais défis, parce que c'est des engagements fermes. Le premier, c'est que d'ici 2025, donc demain, on doit avoir intégré une capacité d'analyser tous les risques environnementaux liés à nos opérations. Donc chaque fois qu'on lance une opération majeure, on doit avoir une analyse, évaluation des risques d'impact et ensuite, bien sûr, des mesures pour réduire ces risques. Deuxième engagement, c'est de réduire de 50% nos émissions, pas seulement directes, mais aussi nos émissions indirectes à travers nos achats de biens et services, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis l'année de base, c'est 2018. Donc on veut en 2030 avoir des émissions qui sont la moitié de 2018. Et troisième engagement, c'est renforcer, au fond, la sensibilisation, mais aussi la mise en œuvre des obligations au titre du droit international humanitaire dans les conflits armés qui protègent l'environnement. Et il y en a beaucoup, mais souvent ces clauses ne sont pas connues et sont peu mises en œuvre par les parties au conflit. Donc on a un engagement d'ici 2025 de travailler sur une promotion et une intégration de ces dispositions légales. Donc je crois que ce qu'on voit aussi et qui va être un vrai défi, et là j'en viens au Climate Action Accelerator, c'est qu'on a vu que plus de 60% de nos émissions sont des émissions indirectes liées à nos achats de biens et de services et de nourriture. Comment, au fond, réduire de 50% nos émissions, sachant que l'essentiel ne vient pas directement de nos activités, mais de nos achats. C'est un vrai défi qui demande de construire une vraie feuille de route environnementale, et on doit pour ça bénéficier de connaissances qui ont été acquises, quelles leçons ont été apprises sur des manières vraiment efficaces de pouvoir réduire ces émissions. Et nous, d'un côté, comme Comité international de la Croix-Rouge, on a envie de jouer un rôle d'exemple, de moteur dans le secteur, mais de l'autre, on doit aussi bénéficier des expériences faites par d'autres. Et c'est exactement ce que le Climate Action Accelerator nous apporte.
Et concrètement, qu'est-ce qui est mis en œuvre alors actuellement au sein du CICR pour lutter contre le réchauffement climatique ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Alors, il y a plusieurs exemples très concrets sur lesquels on travaille. Mais d'abord, il faut financer tout ça. On a lancé en janvier cette année un fonds de transition pour le climat et l'environnement. C'est un nouveau modèle financier qui vise à mobiliser des ressources pour cette transition que l'on doit faire. Au niveau de nos investissements, on a cette année lancé un gros projet d'énergie solaire, de solarisation de nos bureaux et de nos délégations, qui vise à pouvoir couvrir à travers l'énergie solaire 40% des besoins en électricité dans les 7 pays où on consomme le plus de diesel, à travers que ce soit surtout les générateurs et puis nos opérations. Donc ce projet, c'est vraiment le premier qui va être soutenu par ce fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le fonds de transition pour le climat. Et puis l'idée est d'éviter, on espère éviter l'émission de 140 000 tonnes de carbone, et épargner aussi jusqu'à 30 voire 50 millions de francs suisses de dépenses sur le diesel par an. Donc ça, on espère avoir du win-win, c'est-à-dire moins d'émissions mais aussi moins de coûts à la fin du compte. Il y a aussi des exemples au niveau de la logistique, hein. On a des centres logistiques régionaux où on a des stocks qui nous permettent de ne pas devoir en cas d'urgence transporter le tout par avion. Et on peut avoir donc du transport en majorité routier par bateau, qui est quand même moins polluant. Et puis, avec nos plus importants fournisseurs, on est en train de négocier, de discuter, pour que des produits essentiels qu'on achète prennent en compte ces aspects environnementaux. Alors, comme exemple, on a maintenant éliminé tous les sacs plastiques individuels de nos kits de cuisine. On a demandé à être redesignés. On a aussi travaillé sur nos lampes solaires afin qu'elles puissent être réparées à la place d'avoir un usage beaucoup plus... Bref, avec l'utilisation de piles rechargeables et de longue durée. On a aussi testé, depuis l'année passée, l'achat d'huile de palme dans nos kits, qui soit d'huile de palme certifiée par une table ronde qui s'appelle Roundtable on Sustainable Palm Oil, qui essaie de réduire l'empreinte environnementale et les désastres que font les cultures de l'huile de palme. Voilà, je peux donner d'autres exemples encore. On a installé et réparé des pompes à eau, qui sont des pompes à eau solaires, que ce soit en Afghanistan, au Niger, au Sud-Soudan. Et puis, on est passé à l'énergie solaire aussi pour des camps de déplacés ou des établissements de santé dans de nombreux pays, dont le Burkina Faso, l'Éthiopie et d'autres. Voilà, donc on a toute une série d'exemples très concrets sur lesquels on travaille, et je dois dire que c'est un vrai défi, mais moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que nos collègues sur le terrain, les collaboratrices et collaborateurs du CICR le demandent. Donc il y a une demande et une attente de leur part que l'on fasse des efforts, et puis il y a un enthousiasme dans la mise en œuvre, même si c'est une mise en œuvre qui demande de changer nos pratiques, de changer nos habitudes, et parfois d'investir en amont, en espérant finalement économiser après coup.
Vous semblez très mature sur le sujet, vous parlez même des équipes sur le terrain qui sont demandeuses et enthousiastes à l'idée de réduire leur empreinte carbone. Est-ce que vous savez s'il y a eu un élément déclencheur à ce changement de mentalité, ou est-ce que finalement c'est depuis très longtemps pris en compte chez vous ? J'aimerais juste essayer de comprendre qu'est-ce qui a créé le pivot en fait, de la mentalité et cette action accélérée par rapport à ces sujets-là.
Bon, moi je vois trois éléments déclencheurs. Le premier, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment de plus en plus l'impact direct du changement climatique sur le terrain, à travers le Sahel, bien sûr Somalie, Soudan du Sud, mais aussi Yémen, Syrie.
Et quand vous dites concrètement, vous pouvez nous dire ce que vous voyez justement, parce qu'on n'a pas ses yeux sur le terrain, ouais. Donc qu'est-ce qui se perçoit concrètement ?
Moi, ce qui m'a frappé en visitant récemment plusieurs fois le Sahel, aussi le nord du Nigeria, le Soudan du Sud et puis la région du lac Tchad, c'est de voir une intensification des conflits qui opposent directement les pastoralistes et les agriculteurs. Parce qu'il y a de moins en moins de champs en pâture pour des problèmes d'eau. Il y a de moins en moins de terres arables fertiles. Et puis, on voit que, d'une part, avec nos travaux qu'on a fait auprès des pastoralistes pour vacciner des millions et des millions de têtes de bétail chaque année, mais aussi pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à des semences qui sont beaucoup plus résistantes aux sécheresses, on arrive à donner ou à redonner aux deux groupes de population des moyens de subsistance qui réduisent la pression, mais ce n'est pas suffisant, parce que les points d'eau sont très peu nombreux, parce que les terres arables, comme je l'ai dit, y a un problème d'irrigation, donc il faut qu'on travaille sur l'irrigation, il faut qu'on travaille sur d'autres questions, et je crois qu'il y a une sensibilisation de l'ensemble de nos collègues qui travaillent là-bas. Le deuxième point, c'est qu'on, bien sûr, on a beaucoup de jeunes collègues qui arrivent, qui sont dans la fin de la vingtaine, début de la trentaine, qui eux sont, je dirais, d'entrée de jeu beaucoup plus conscientisés sur ces questions climatiques qui les concernent eux par rapport à leur avenir. Et il y a une grosse pression qui est vraiment bienvenue de leur part, puis aussi un engagement de leur part que l'on perçoit. Et puis finalement, je dirais que nous, on s'est rendu compte qu'on a des pratiques qui ne sont pas soutenables, que parfois, nous autres, humanitaires ou CSR, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit les émissions, on n'avait pas pris conscience que l'on est aussi un acteur petit, mais on a aussi une empreinte environnementale propre. Et je crois que maintenant, comme organisation humanitaire, on s'est dit qu'on doit faire partie de la solution. On ne peut plus aller prétendre que l'on répond aussi à l'impact du changement climatique dans des zones de conflit, puis en même temps contribuer sans aucune retenue à ce changement climatique.
Merci, très clair. Pour revenir au CA, vous le savez, le CA a pour objectif de générer un effet domino, un effet de basculement du secteur humanitaire vers des pratiques plus durables. On a mis en place une plateforme de partage des solutions. C'est un des leviers avec lesquels on espère générer cet effet domino rapidement. Est-ce que vous avez, vous, d'autres idées qui éventuellement pourraient nous aider à accélérer cet effet domino au sein des organisations ?
Mais je crois que c'est déjà dans la stratégie du Climate Action Accelerator qu'on a un certain nombre de solutions qui nous intéressent beaucoup, parce qu'on voit qu'on a besoin de capitaliser sur les expériences des uns et des autres. D'abord, le CA, ce qui m'intéresse, c'est qu'il amène aussi des expériences que d'autres secteurs ont fait bien avant nous, que ce soit bien sûr des sociétés privées qui ont déjà depuis très nombreuses années publié des rapports annuels sur leur empreinte carbone, sur leurs efforts de réduire des émissions, mais aussi d'autres secteurs, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, où il y a encore de très gros efforts à faire, mais où on peut, nous aussi, qui travaillons en soutien, par exemple, du secteur de la santé dans tellement de pays, être beaucoup plus conscient de comment interagir avec des systèmes, que ce soit notamment de santé, d'éducation, que nous soutenons. Donc je crois qu'il y a vraiment un besoin de synergie, de capitalisation d'expérience qui nous permettent de guider notre action sur la base de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché ailleurs. Et puis on s'est aussi rendu compte que attendre simplement qu'à travers les grandes conférences, les COP, hein, des Conference of Parties, et puis que finalement les États se décident à prendre des décisions résolues qui se traduisent dans des politiques, n'est pas suffisant, parce que là on va attendre encore des décennies, et que chacun d'entre nous devons agir maintenant, en attendant. Et donc, même s'il faut maintenir une pression politique sur les politiques publiques, c'est évident, il est essentiel d'aller vite maintenant. Et je trouve que justement ce Climate Action Accelerator, c'est un coup d'accélérateur qui nous permet, à travers l'échange d'expériences, de faire beaucoup plus au niveau individuel et finalement d'avoir une masse critique, parce que l'ambition du CA, c'est de pouvoir influencer tout le secteur et au-delà.
Dernière question, quelle est la principale force d'une organisation justement comme le CICR pour vous, pour réussir sa transformation vers une organisation décarbonée ?
Bon, on a une force qui est aussi un défi, c'est qu'on est une relativement grande organisation avec plus de 20 000 collègues, avec des gros budgets. Alors il faut faire bouger un paquebot, et faire bouger un paquebot c'est toujours plus long qu'un petit voilier. Mais par contre, la force que nous avons, c'est qu'on peut, disons, se permettre d'avoir vraiment des experts qui, dans différents domaines, qui nous ont rejoints, et puis travailler avec le CA et d'autres pour prendre des mesures assez radicales, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, très concrètes, en commençant par nos plus grosses opérations, et puis prendre une direction qui peut vraiment avoir un impact. Et donc, je crois, le fait qu'on soit aussi une grande organisation nous permet d'avoir des changements, disons, systémiques, structurels, qui nous permettent vraiment de changer radicalement la manière dont on envisage les opérations humanitaires d'un point de vue de leur empreinte environnementale, et travailler à travers le droit international humanitaire, qui est aussi un aspect très intéressant, et puis avec la charte dont on a parlé en début de discussion. C'est une charte qui est ouverte à toutes et tous, et donc avec plus de 220 organisations et des États qui la rejoignent, on voit qu'il y a un effet boule de neige, et je pense que c'est aussi une force que de pouvoir susciter cet effet boule de neige. Espérons que, contrairement au glacier, cette boule de neige croisse et ne fonde pas tout de suite. Donc nous y croyons fermement, et je pense que le CIA va nous y aider.
Merci, on espère aussi l'effet boule de neige qui ne fond pas. Merci, vous donnez vraiment la sensation que c'est possible, malgré en effet votre taille, et c'est jamais très simple le changement aussi des mentalités. Le management du changement, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc merci beaucoup pour votre temps, et puis à bientôt.
Merci beaucoup pour la discussion, et puis à très bientôt.
Vous avez aimé cet épisode ? Dites-le nous en commentaire et laissez-nous 5 étoiles. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. À très bientôt et merci.